Salut les auditeurs et auditrices, ça fait bientôt un an que les podcasts Réponse de mec et Réponse de meuf ont été adaptés en spectacle. Un spectacle interactif qui se joue tous les samedis à 18h à la Divine Comédie, c'est un théâtre à Paris. Ce spectacle, c'est l'occasion de prolonger les débats, d'étendre les discussions, d'exposer et d'écouter plein de points de vue sur vos questions et évidemment de se marrer. On finit la saison le 27 avril, ça veut dire qu'il faut que vous preniez vos places pour un des derniers samedis qui restent. Le lien est dans la description et au pire, faut taper Réponse de mec dans Billets Réduc. Profitez-en, hein. Les places sont vraiment pas chères et surtout, c'est les dernières. Après, c'est fini. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute et à samedi.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan.
Yo, ça va?
Salut Conny, ça va?
Salut Pascal, salut Dan.
Ça va très bien. Yo. Et bonjour chers auditeurs et auditrices.
Ça commence bien, Pascal.
C'est dur.
C'est la fatigue.
Auditeurs et auditrices.
Merci d'être toujours là et bienvenue dans le podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes. Petit rappel, donc à chaque épisode, on invite une jeune femme à qui on pose les questions que nous, on se pose d'habitude entre nous, entre garçons, et on en fait un podcast en espérant que ça puisse éclairer tout le monde, en tout cas le plus possible, sur les relations hommes-femmes. Vous pouvez retrouver tous nos précédents épisodes, il y en a plus d'une centaine, sur www.lesgentilshommes.fr. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, et vous pouvez nous soutenir, si vous le souhaitez, sur Tipeee, moyennant quelques euros. Vous avez en contrepartie l'épisode en avance. Et puis nous,
on exclut en avance,
et nous, ça nous permet de financer un peu de com, un peu de choses à droite à gauche pour continuer au podcast. Donc ça contribue à la.
On compte sur vous.
On compte sur vous. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de dépendance affective avec Irina. Bonjour Irina.
Hello à tous.
Salut Irina.
Qui es-tu?
Alors moi, je suis Irina. J'ai 26 ans, célibataire, et j'habite à Lille.
Irina, c'est quoi être dépendante affectivement?
C'est une définition un peu compliquée. Moi, je l'ai appris en plus il n'y a pas très longtemps. Je me suis rendu compte de ça, genre il y a un mois. En fait, être une dépendante affective, tout le monde est dépendant affectif de quelque chose. Surtout envers les parents, on a besoin de l'affection de quelqu'un. Mais ça devient vraiment une pathologie en fait quand on en souffre. Et pour moi, ce que j'appelle dépendance affective, en tout cas, c'est dans mes relations amoureuses où je m'accroche à l'être aimé comme si je ne vivais que pour lui et je ne vis plus pour moi. Je n'existe plus, je n'existe que pour lui.
Ok, tu as directement parlé de pathologie.
C'est oui.
Parce que tu es allé voir un psychiatre ou un psychologue qui a mis le doigt là-dessus. Et donc, s'il y a pathologie, il y a il y a traitement, etc. etc.
Oui, on peut dire ça comme ça. En effet, je fais un suivi psychologique en effet en ce moment et... c'est autour d'une rétrospection en fait de moi-même. Je l'ai découverte moi-même et ma psychologue me l'a affirmé en fait. En effet, c'est bien ça. Et il y a des exercices à faire et bien évidemment il y a un suivi et tout ça et c'est difficile. Mais oui, c'est bien ça, une pathologie.
Ouais. Et donc c'est quoi, comment ça se concrétise vraiment dans tes relations dépendante?
Dans mes relations, alors en plus moi je m'accroche dès les premiers rendez-vous, donc le premier ou le deuxième, donc je peux carrément tomber amoureuse, voilà, tout le temps. Et en fait je m'attache à lui, genre je m'intéresse à tout ce qui, je suis un peu genre ce que penseraient les autres hommes, un peu collante. Qu'est-ce que tu veux, je le fais pour toi, je suis toujours là pour toi, peu importe ce que tu fais.
Dès le premier rendez-vous?
On va dire le deuxième, mais le premier rendez-vous ça se voit déjà, ouais.
Et donc, ça veut dire que tu arrives au premier rendez-vous en sachant que potentiellement, tu vas être hyper intéressé ou c'est
ça.
Donc, en fait, ça s'applique presque à n'importe quelle personne avec qui tu as rendez-vous.
Oui. Dans ma vie affectueuse, oui, c'est ça.
D'accord.
C'est pour ça que c'est une pathologie. C'est pas vraiment normal, puisqu'en fait, à chaque fois que je vais voir un homme, je ne me protège pas. Je sais très pertinemment que je pourrais tomber amoureuse comme ça et tout donner, en fait.
D'accord.
On fait le fil un petit peu. Quand est-ce que ça commence?
C'est-à-dire?
Quand est-ce que, rétrospectivement aujourd'hui, tu te dis, ma dépendance affective, elle a commencé à ce moment-là. C'est possible de savoir d'abord?
Non. Je pense pas. Moi, c'était vraiment un flash, en fait. Je pense que j'écoutais un de vos podcasts. Et une jeune fille en avait parlé et tout ça, et je me suis un peu renseignée, j'ai cherché un petit peu, et j'ai recherché des études qui en parlaient et tout ça, je suis vraiment allée loin, et j'ai compris que, mais c'est pas normal ce que je fais. Je pensais que j'avais le cœur ouvert, et que ouais, je peux aimer tout le monde, et puis voilà, mais en fait non, puisque à chaque fois, en fait, je me fais mal, peu importe même si c'est moi ou c'est lui qui finissons la relation, en fait, ça finissait toujours mal pour moi.
C'est-à-dire que tu avais la pathologie, puisqu'on dit que c'est une pathologie, mais sans avoir le nom dessus, tu savais pas que
c'était ça. Oui, c'est ça, exactement.
D'accord. Tu as un exemple de relation, peut-être, à nous dire, peut-être
J'ai eu deux grandes relations qui étaient vraiment très, très difficiles.
Comment ont débuté ces relations?
Le premier, c'était vraiment tout bête, hein, c'était un amour d'enfant de collège. Je l'ai rencontré au collège, collège-lycée, et on était ensemble pendant 7 ans. Et je suis restée avec lui à cause de cette dépendance addictive pendant 7 ans.
Comment ça? Comment ça
raconte? Ouais.
Prendre dans le détail un peu.
Comment dire? Ouais, c'est un amour de collège. À l'époque, vous savez, il y a la pression sociale. Toutes mes copines avaient des copains et tout. Ouais, je vais me trouver un copain. Et donc, il y en a un qui était gentil. Il a dit, ouais, why not? Et ça s'est bien passé au début. Je l'aimais bien. C'est vrai qu'au bout d'un mois, je me dis, peut-être que c'est pas le bon. Après, je me dis, non. Je trouverai jamais mieux.
Au bout d'un mois, tu te dis c'est pas le bon alors que tu étais au collège?
Oui.
Tu avais déjà quand même la clairvoyance de te dire c'est pas forcément le bon?
Oui, c'est ça. Je le savais, mais je me suis dit non, tu trouveras pas mieux. Tout le monde commence à trouver un petit copain au lycée, collège. Écoute, c'est bien d'avoir le premier petit ami et tu vas te marier avec et avoir des gosses avec.
Et c'est pourquoi tu disais que c'est pas le bon?
Oui.
C'était quoi qui te déchauffait, entre guillemets? C'est quoi qui te plaisait pas?
En réalité, dès le début, il ne me plaisait pas vraiment que ça. Il était sympa, gentil. Mais c'était vraiment la pression sociale qui m'a fait que je suis sortie avec lui.
C'est quoi le lien avec la dépendance affective, là?
Parce qu'en fait, juste après, il me donnait l'affection que j'avais pas forcément avec mes frères ou mon père. Et donc après, je me suis dit, ouais, tu trouveras pas mieux, tu trouveras pas un autre mec, faut que tu restes avec lui, sinon tu vas finir seule toute ta vie.
Qui te disait ça?
Moi, dans ma tête.
Toi, dans ta tête, tu disais ça au collège?
Oui, en fait, disons que suivant l'éducation qu'on a eue et puis mes origines, c'était important de se dire, mes parents, ils se sont rencontrés même à l'école, au collège aussi, au lycée. La plupart de toutes mes familles, c'était comme ça. On se rencontrait, mon frère, il l'a rencontré ou peut-être à l'université, mais c'est parmi les premiers, voilà, le schéma. Et tu rencontres un gars, tu l'aimes bien, tu te maries, t'as des gosses.
Donc, t'avais ce schéma en tête?
Oui.
Et comment ça se traduisait la dépendance affective avec cette première relation? C'est-à-dire que quoi, t'étais à fond sur lui, dès qu'il faisait un truc, tu l'anticipais, t'étais à fond sur...
Oui, j'étais avant sur ce qu'il voulait lui, absolument, partout, peu importe ses projets de vie, professionnels.
Tu suivais quoi?
Ouais, voilà, c'est ça.
Et lui, contrairement à ça, lui, il faisait pas du tout? Il s'intéressait pas à toi ou...
Si, il s'intéressait, lui, il m'aimait vraiment. Même jusqu'à notre séparation, il était vraiment amoureux, je le savais, mais c'était difficile. Par exemple, je suis venue en France il y a 4 ans pour mes études, et c'était un peu débile de ma part, mais en fait, il y avait eu un ultimatum quand on en a parlé à la fac. Il m'a dit, écoute, si tu vas à la fac, une relation à distance, ça marche pas, donc soit tu me quittes, soit tu n'y vas pas. Et donc, je lui ai promis de ne pas penser à mes études. Ok, je finis ma carrière, mes études ici, et je fais ma carrière à Madagascar. Donc,
tu as sacrifié?
Je voulais sacrifier.
Et pourquoi tu ne l'as pas fait, finalement?
Je ne sais pas. Il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait que ce n'était pas bien. Mais sur le moment, je lui ai promis et tout. Et même les démarches en venant ici, je l'ai un petit peu caché, en fait. Je l'ai fait dans son dos.
Ah, t'as fait les démarches pour venir ici dans son dos?
D'accord. Dans son dos, ouais.
D'accord.
C'est marrant parce que quand tu décris la relation, j'ai l'impression que t'es dans un espèce de schéma tout fait de bonne épouse, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets.
Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu l'éducation que j'ai eue, on va dire. Ma mère, c'était comme ça, la bonne épouse. Ben, et aussi, culturellement parlant, en général, c'est toujours le même schéma. On devrait se marier entre 26 et 28 ans et avoir des gosses avant 30 ans, et voilà.
Donc, comment tu fais pour... parce qu'on a l'impression que quand même, tu lui as pas dit toute la vérité. Comment tu fais pour en sortir?
Toute la vérité. En fait, c'est mes copines qui m'ont un petit peu mis sur le chemin. Donc, on avait fait une relation à distance pendant 2 ans. Je leur expliquais un peu comment ça marchait. J'étais hyper malheureuse, en fait. Même avant même que je vienne ici, j'étais déjà pas bien. Mais avec la distance, ça a encore plus accentué où j'étais pas bien, parce qu'on se disputait souvent, parce que j'acceptais toutes ses demandes, en fait. Tout ce qu'il voulait, fais-moi ceci. Enfin, il y a eu plein de choses.
C'était quoi, ces demandes?
C'était quoi, ouais?
Plutôt professionnel, des projets. Écoute, tu finis tes études dans 2 ans et tu reviens, on va se marier. Ok. J'étais pas d'accord au fond de moi, mais je dis ok.
Oui, mais tu l'as pas fait, finalement.
Mais je l'ai pas fait, finalement, parce que je l'ai fait sur un coup de tête. J'y ai pas réfléchi, en fait. Au moment où j'ai décidé de me séparer de lui, j'ai pas réfléchi. Parce que si j'avais réfléchi...
Tu l'aurais fait ?
Je serais restée, je serais rentrée, j'aurais été mariée. Ça.
Comment t'as décidé et surtout réussi à te séparer de lui ? Parce que t'es à la fois dans un schéma de dépendance affective qui démontre un attachement fort, mais en même temps, t'arrives à te séparer. Et, or, je pense que c'est quand même assez incompatible avec la dépendance affective. Comment
oui,
t'as réussi ?
Je crois qu'il y a eu un déclic, j'en ai parlé avec mes copines et tout ça, et elles m'ont conseillé d'arrêter déjà la relation, et j'ai fait « Ok, d'accord, je vais suivre vos conseils et je vais le faire ». C'était genre le jour même, et juste 5 minutes après, je lui ai envoyé un message. Je me dis « Comme ça, je pense pas, c'est fait ».
D'accord,
tu l'as fait. Je pensais pas aux conséquences et tout ça. Hein,
Qu'est-ce que tu lui as dit par message ?
Je me souviens plus trop, j'avoue.
Parce que lui, il a dû tomber un peu des nues quand même. Il a dû
non, il a compris quand même. Enfin, il savait qu'il y avait des moments où il y avait un truc qui n'allait pas bien. Et moi, je pense que en gros, c'était, écoute, j'arrive plus. Je pense que, enfin, je lui disais, bah, écoute, j'ai plus de sentiments pour toi, donc il faudrait qu'on arrête.
Et il y a eu des conséquences, j'imagine, si tu fais ça sur un coup de tête. Quand la réalité oui. revient, la pression, une espèce de pression sociale que tu...
Exactement, d'autant plus qu'avant que je suis partie, on avait fait les démarches, c'est pas des fiançailles, mais c'est des pré-fiançailles en fait, avec, où mes parents et ses parents se sont rencontrés, et en fait pour dire que c'était vraiment une relation sérieuse et qu'on pensait à se marier plus tard. Et oui, il y a eu des conséquences parce que donc, avec mes beaux-parents, on s'entendait bien et tout ça. Et moi, je ne voulais pas l'annoncer à mes beaux-parents. Et lui, il disait, non, va les dire, toi, c'est toi qui veux rompre avec moi. C'était...
pas très sympa.
Très courant, malheureusement, je pense.
Ouais. Mais donc, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais en colère aussi. Non, je ne voulais pas. J'avais peur aussi, elle aurait tombé. Et j'étais plutôt contente parce que mes parents, eux, ils m'ont soutenue par rapport à cette décision que j'ai prise.
Comment tu fais la différence entre l'amour et la dépendance affective ?
Je ne sais pas le faire.
Ah. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment tu...
Aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je ne sais pas le faire.
Donc, ça veut dire que pour toi, l'amour et la dépendance affective, c'est la dépendance affective, c'est l'expression de ton amour, c'est la seule manière que tu as, que tu vois d'être amoureux.
Ce que j'avais remarqué, en tout cas.
Ouais.
Je suis en train d'étudier un petit peu les schémas et de me dire j'étais en train de me dire que ouais il faut en fait j'étais en train de réfléchir et de me dire toutes mes relations étaient fausses ou pas.
Ah.
Parce que mais par contre je suis sûre que je l'aimais à un moment donné. Je ne sais pas quand, à quel moment.
Au début, peut-être.
Sur les 7 ans.
Sur les 7 ans, de la distance, oui.
Ouais.
Mais pardon. Je sais que je l'aimais. Je sais que je l'aimais. Je sais pas où, à quel moment. Peut-être que c'est là, repassé. Voilà.
Parce que, donc, après ce garçon, tu as rencontré d'autres personnes ?
Oui.
Tu as dit que tu avais une deuxième relation.
Oui. Ouais. En fait, après ce garçon, comme on dit chez nous, il y a eu une période où j'ai fait un... Comment on disait c'est comme un cheval qui a rompu avec sa corde, en fait. Genre, j'étais libre.
T'es libérée, quoi.
Exactement. Ah. Voilà. Et il y a un proverbe malgache qui te dit très bien. Et donc, c'est la version française. Et là, j'ai dit, écoute, je suis célibataire, je fais ce que je veux. Et là, j'ai enchaîné plein de choses, les relations et tout ça.
Donc là, une année,
voilà, exactement.
Mais et là, dans les relations,
c'était pas dépendante.
Voilà, c'est ça. C'était plus.
Là, j'étais dépendante, plus léger, mais quand même, parce qu'en fait, bien que je savais que c'était genre soit des coups d'un soir, soit juste un plan cul, ben, je m'attachais.
Ah, tu t'attachais direct.
Oui, je m'attachais.
Genre
à la personne,
premier rendez-vous.
Premier ou deuxième.
Ouais, ouais, tu t'attaches. Ouais. Mais ça, ça veut dire quoi, ouais.
Ça se traduisait par des messages, savoir comment il allait, qu'est-ce qu'il voulait faire, et même au lit, en général. C'est toujours son plaisir avant le mien. Donc.
Et tu sais pourquoi tu fais ça, là? Parce que là, c'est des plans cul. T'as pas besoin
je
de. Y a pas de
pression. Ouais, je sais, je sais. Je sais pas. À l'époque, bah, c'est comme ça que je fonctionnais. Enfin,
parce que peut-être que tu te projetais avec le mec direct. Tu te disais peut-être que
possible,
ça va être
oui.
sérieux et du coup, il faut que je lui fasse plaisir.
C'est possible. Je pense que oui, il y en a eu où je me projetais vraiment dès le début. Qu'il fallait pas. Il y a d'autres noms, mais instinctivement, en fait, c'était comme. C'était naturel. C'était comme. Merde, mais pourquoi ? Même moi, je me le dis. Hein, c'est horrible.
Et donc, tu commences à passer à travers, à passer à travers ça ?
Oui, j'essaie de.
J'imagine qu'une période légère comme ça, de plan cul et tout, ça doit te faire énormément relativiser sur l'engagement.
Oui, totalement. Ça m'a. En fait, non, encore, c'est parce que la dernière relation parmi tous mes plans cul, en fait, il y a eu une. Donc, la deuxième relation. C'était une relation un peu étrange parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. On s'est rencontrés sur Tinder et on n'a fait que des cams. On ne s'est jamais vus, même pas une seule fois.
Tu peux nous raconter un peu, c'est quoi des cams ?
Bah, on se voyait face à des vidéos.
Des visios, quoi.
Ouais,
des rendez-vous en visio.
Ouais. Non, mais j'avais un gros sous-entendu dans ma question, c'est pour ça. Quid de la sexualité quand
oui,
on fait que des
c'est
visios.
Ça. Que de la cam, du coup, oui, aussi.
Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Ce qui me semblait.
Tu l'avais jamais rencontré en vrai ?
Je l'avais jamais rencontré en vrai.
Mais c'est parce qu'il était loin de toi ?
Non.
C'est parce que pourquoi c'était le confinement, alors.
Parce que c'était ce qui était. Enfin, c'était sympa au début, je sais pas. C'est ce qu'il voulait, j'ai dit oui.
C'était le confinement ou...
Non.
Il était marié?
Non.
C'est pas possible, là. Elle nous fait tourner en boucle, là.
Non, pas du tout. Je l'ai jamais rencontré.
Toi, en fait, c'est là où tu dis que t'es un peu dépendante, effectivement. C'est qu'en fait, t'as tout de suite accepté ça.
J'ai accepté ça. Au début, c'était sympa, OK en plus, c'était un petit peu des jeux un peu SM, donc c'était sympa et tout. Au bout de...
Comment tu fais du SM?
Du toi.
À cam,
direct. Voilà.
Faut
que tu nous expliques un peu. Ouais.
Attends, alors du coup.
Pendant une petite minute.
Alors attends,
ça
le
va,
mec, tu le rends. Comment tu rencontres le mec? Comment tu rencontres le mec?
Tinder,
ok. Donc vous vous rencontrez pas.
Non.
Il y a que du chat d'abord.
Exactement.
Par écrit et après le mec te dit bah tiens on se fait une visio.
Oui.
Là vous commencez à discuter et d'un coup il te dit bon bah vas-y je vais sortir le fouet. Mais par contre, je vais me fouetter moi-même, quoi.
Non, c'était plus... il aimait me voir me faire du mal à moi-même. Donc, soit je me giflais, soit c'était un peu... Voilà, des trucs...
Ok.
Mais est-ce que toi, t'es consentante ou est-ce que c'est parce que t'es dépendante affectivement que tu le fais?
J'étais consentante et c'était au bout d'un moment que je... Bah, au début, en fait, c'était un peu soft. Au début, je disais qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bien, mais... En fait, c'était un peu le jeu en fait qui m'excitait. Ouais, on se voit pas, c'est sympa,
marrant, quoi, c'est
marrant,
c'est original, ouais.
On va tester tout ça. En fait, je suis tombée amoureuse, je crois, au bout de 2 mois. Donc
sans l'avoir vu.
Sans l'avoir vu.
Enfin, sans l'avoir vu physiquement.
C'était un Parisien ou?
Non, un Lillois.
Ok.
Donc il habitait pas.
Donc il habitait pas loin de chez toi et tout. Ouais, c'était. Et à un moment, t'as pas eu envie de lui dire, écoute, bah en fait, vas-y, viens, on prend un verre, là, c'est bon. On a...
Si, et à chaque fois, en fait, il y avait des petits jeux entre nous, des ultimatums. Il avait un petit peu le contrôle sur mon compte Tinder et il me faisait.
Comment ça, le contrôle sur ton compte Tinder?
Bah, le contrôle sur mon compte et en fait, il me. En fait, le jeu était que j'étais son objet, en gros. Donc, je faisais tout ce qu'il me disait. Si je devais aller avec ce gars-là ou ce gars-là, qu'est-ce que je devais faire avec ce gars-là ou...
Et après, il voulait regarder?
Des fois, il voulait des photos, oui.
Mais il te disait pas, t'allumes la cam et...
Non, 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 non.
Ok.
Vous voulez des photos ou alors...
Comment tu faisais... Non, mais c'est hyper intéressant. Comment tu faisais quand tu étais avec un gars, par exemple, il te dit, tu peux aller avec ce gars-là et je veux une photo. Une fois que tu es avec le gars, comment tu fais pour justifier de la photo?
Ben, je lui demande, écoute, c'est pour mon plaisir personnel, on se prend une photo, on prend une vidéo du truc.
Mais tu parlais pas du mec en question?
Non, jamais.
Mmh. Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que tu deviens... tu dis que tu deviens l'objet de ce monsieur.
Oui.
Et en fait... Quand tu nous as décrit la dépendance affective, est-ce que c'est devenir l'objet, c'est la dernière étape de la dépendance?
Pour moi, en tout cas. Mmh. De mon expérience personnelle, c'était ça, ouais. Mmh. C'était le summum de ce que j'ai pu faire. Et en fait, il y a eu un an de relation comme ça. Mmh. Donc, je suis tombée amoureuse de lui, il le savait, il en a joué un petit peu, mais il est... Enfin... Il n'est pas méchant, il a ses envies et tout ça. Et moi, j'étais consentante, hein, c'est tout à fait normal. Mais au bout d'un moment, en fait, j'étais fatiguée parce que j'ai compris qu'il n'allait jamais ressentir ce que moi, je ressentais. Et là, j'ai fait un burn-out professionnel et personnel. J'ai fait, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir?
Mmh. T'étais arrivée au bout?
Ouais, c'est ça.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe après?
Ce qui se passe après, la dépression. Ah. Ça arrive vite. Ouais. Surtout quand tu enchaînes plus d'une trentaine de mecs en une année... Ça fait mal. En fait, dans ton esprit, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant un an? Niveau professionnel, ça va encore. Mais personnel, je me dis, je suis totalement perdue. Je vis seule. Je vais finir toute seule. C'est bon.
Tu t'es repris l'image de la femme que tu avais quand tu étais collège,
exactement,
lycée. Tu t'es repris dans la figure.
Exactement.
D'accord. Et comment tu réagis alors à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas faire?
Ce que j'ai fait, moi en tout cas, j'ai consulté un psy. Mmh. J'ai dit, je ne peux pas m'en sortir toute seule, puisque j'ai déjà eu des épisodes de dépression quand j'étais plus jeune et des envies de suicide et tout ça. Et il fallait que je me dise, non, là, je suis seule en France. Ma famille est née à Madagascar, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui m'aide, parce que sinon, je ne m'en sortirais pas.
Mmh. Donc, t'as trouvé.
Oui, ça va un peu mieux. On dit, enfin... Il y a eu psychologue et psychiatre aussi. Donc,
ouais. Et donc, ils ont mis le doigt sur la dépendance affective?
Au début, c'était... En fait, je le cachais. Je disais, ouais, j'ai un manque de confiance en moi. Parce que moi, c'est ce que je le disais, en fait. J'avais pas de confiance en moi. C'est pour ça que j'acceptais tout de l'autre. J'arrivais pas à me positionner dans une relation et me dire, non, c'est ce que je veux. Mmh. Et c'est au fil des discussions, on a fait de la rétrospection, mon enfance et tout ça. Et c'est après que j'ai découvert, ah oui, mais il y a aussi une dépendance affective, parce que personnellement, dans mon expérience, j'avais un petit manque d'affection de mon père, du côté de mon père, donc ça s'est répercuté ensuite sur mes relations amoureuses. Mmh. Voilà.
Tu parles de manque de confiance en toi.
Oui.
C'est quoi le lien entre l'amour et la confiance en soi pour toi?
Je trouve que... Alors la question, je sais pas, c'est un peu compliqué parce que même pour moi, je confonds en fait, puisque j'aurais aimé... en fait, il y a déjà l'amour de soi en fait. Déjà, je ne m'aimais pas. Parce que pour pouvoir accepter tout de l'autre, c'est que moi, je ne m'aimais pas assez en fait pour dire ouais, quelles sont tes valeurs à toi, vas-y. Enfin, c'est pas s'imposer, mais dire ok, moi, je préfère ça et j'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire moi. Et en fait, dans toutes les relations amoureuses que j'ai eues, ben, j'ai jamais eu le courage de dire non, moi je veux ça, ne serait-ce que juste pour un petit truc. Juste c'était, ah ouais, écoute, moi je préfère ça, non mais c'est une blague, c'est bon.
Ah oui, tu veux dire même un plat au restaurant ou un truc, vraiment le truc anodin quoi.
Oui, des fois, ouais, ça m'arrivait, ouais.
D'accord.
Et comment t'expliques qu'il y a eu, enfin que le mec en face... À un moment, on se disait pas, bah, en fait, il faut aussi que je fasse plaisir à ma copine. Est-ce que tu penses pas que toi, du coup, t'as peut-être été attiré par des mecs qui étaient justement très, très centrés sur eux?
C'est possible, c'est possible.
Un peu pervers narcissique.
Oui, c'est possible.
À entendre la dernière, la dernière histoire que tu nous as racontée, le mec avait l'air quand même très vouloir tout contrôler.
Oui.
Pas s'intéresser finalement à toi, tes désirs.
C'est totalement possible que je retombe sur ce même genre de personne. Même mon premier petit ami était un peu narcissique. Et c'est oui, en effet, des fois je retombe dans les mêmes schémas. Il y a d'abord le physique, bien évidemment, quand tu vois un garçon, ouais, il est sympa et tout. Et c'est dans ensuite, au bout de 2-3 dates, tu comprends un petit peu comment il est. Et c'est vrai que des fois, je retombe dans un schéma.
Et aujourd'hui, tu essaies de sortir de ça?
J'essaie de sortir de ce schéma, oui, en effet.
Ouais. Et comment tu fais?
Pour le moment, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'en parlais à ma psy. Parce que à chaque fois, je me dis, merde, est-ce que c'est bon? Et ça aussi, c'est quelque chose qu'ont les dépendants affectifs, en fait. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions seuls. Donc, en fait, moi, en plus, dans mes relations amoureuses, je le vis aussi dans mon quotidien. Puisqu'en fait, c'est tellement élevé, un niveau extrême, que même dans mon quotidien, ça a des impacts.
Donc, tu veux dire au boulot
Au boulot, avec la famille.
Prendre des décisions, quoi.
Exactement. Exactement. Là, ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, genre, à chaque fois que je faisais un truc, je demandais toujours est-ce que je dois faire comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? C'est là où, parce qu'au début, moi, je pensais que c'était de la manque de confiance en moi et tout ça. Et pourtant, au fond de moi, je savais, mais je sais que, en fait, c'est ça qui est bon. Mais vas-y, demande quand même. Voilà, c'est ça.
Mais maintenant que tu as identifié, tu peux sortir de ce schéma?
Oui, je peux sortir de schéma. Je ne sais pas encore comment. Je suis qu'à la qu'aux premières étapes. Donc,
ouais. T'as pas encore rencontré de mec avec qui tu t'es pas sentie dépendante? Effectivement.
Si, je pense que si, puisque j'ai des sex friends et tout ça, et ça se passe plutôt bien. Genre, je suis pas. Il y a un petit côté, c'est vrai que quand le courant passe bien et tout ça, on s'échange, on se parle un petit peu d'autre chose que de cul. Et ça se passe bien. Pourtant, je suis pas là, genre, à me dire, est-ce qu'il m'aime bien? Est-ce que le message que j'envoyais est bien? Est-ce que. Comment il va penser de moi? Et tout ça.
Et ça, t'aurais pu avoir cette réaction avant ou pas? Tu penses qu'il y a eu une évolution?
Cette érection?
Pascal, ta langue a fourché, on dirait.
Non, j'ai dit réaction.
Ah, on a
j'ai compris réaction aussi.
Ah oui, ah, okay, ah, bah, bon. C'est nous qui avons les oreilles.
On a mal compris.
Désolé.
Il faudrait peut-être que j'arrête de parler de cul, je sais pas. donc, tu disais, excuse-moi.
Je te demandais, en fait, si là, le schéma dans lequel tu es là, d'avoir des sex friends et de ne pas être tant dépendant affectivement de eux, est-ce que avant ça aurait été possible ou pas? Du coup, est-ce que tu te rends compte de cette évolution qui a pu avoir, quoi?
Avant, c'est-à-dire avant d'avoir vu un psy ou
bah,
avant
oui,
ma
voilà,
relation?
Avant, ouais. ou cette période justement où
je
tu disais où tu as vu 30 mecs là et tu étais avant.
Je pense que j'étais tellement aveugle, on va dire.
Ouais.
Et non, je pense. Mais là, je vois vraiment la différence en fait. Je me suis rendu compte, il y en a eu un ou deux, je me suis dit, ah mais tiens, merde, c'est totalement différent et je me sentais bien en fait à chaque fois.
Ah, d'accord.
Mais il y a une grosse, grosse différence en effet.
Okay.
T'as pas peur de l'effet inverse après? Bon, là, je me fais un peu l'avocat du diable, excuse-moi.
Vas-y, vas-y.
T'es en pleine rédemption là et je vais t'écraser la tête. C'est vraiment.
Inverse.
Bah, c'est de plus arriver à donner après. Moi,
non.
À être amoureuse.
Être trop sur soi.
Ouais. Je pense non parce que c'est. Je trouve que c'est quelque chose d'inné en moi. J'aime facilement, on va dire ça comme ça. Je donne beaucoup d'amour facilement. Et même si aujourd'hui je me restreins. Je pense pas que ça puisse changer le fond de ma nature, en fait.
Donc, en fait, si on résume un petit peu, si t'as plus d'amour propre, plus de confiance, a priori, tu vas pouvoir trouver un rapport équilibré.
Exactement.
Avec
quelqu'un. Bon, c'est
très
ça.
Très bien. Ouais.
C'est une belle évolution.
C'est optimiste. Hein.
Très bien. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, tu es célibataire et tu as des sex friends. C'est
oui, c'est bien ça.
T'en as plusieurs?
Oui.
En même temps?
Oui.
Bravo.
C'est une situation qui te convient, qui te...
Tout à fait.
Ok.
Tout à fait. Aussi mes partenaires aussi, donc ça se passe bien.
Et du coup là, tu te dis s'il y en a un, enfin qui me plaît un peu plus que l'autre, ça peut devenir sérieux. Ou alors t'es en mode, t'as envie de justement.
Oui,
de,
si ça peut devenir
de tenter
sérieux.
Encore d'autres trucs.
Why not? Ça me dérangerait pas. En vrai, j'aimerais bien. J'étais fatiguée du schéma, plan cul, sex friend et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui me poser. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui pourrait t'épauler et tout ça. Mais au fond de moi aussi, je me dis, il faut d'abord que je sois bien en moi avant de pouvoir entamer une vraie relation.
Bien sûr.
Mais ça ne m'empêche pas de chercher. Et de, si jamais je trouve le bon gars, ben...
Comment est-ce que tu cherches là?
Tinder, Bumble, Appen. Et récemment, Abricot.
T'es sur toutes les applis, quoi. T'es sur toutes ces applis en même temps?
Ça prend beaucoup de temps, non?
Vous regardez comme si... Waouh.
C'est chouette, c'est chouette.
Non, de temps en temps... Enfin, j'y vais pas tout le temps non plus. J'y vais quand les dimanches soirs, je m'ennuie un petit peu, je sois un peu... 5 minutes, 10 minutes, après je laisse et voilà.
Et pas de rencontre au boulot ou...
Non, pour moi, c'est... au boulot, c'est non. C'est,
ah, au boulot, c'est non.
Pour moi, c'est... Non, c'est...
Pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de couples qui se rencontrent
au
boulot.
Je sais, tout à fait, je sais, mais je n'y arrive pas, en fait. Je veux pas... déjà en mettre plus de problèmes dans ma vie professionnelle et personnelle. Non, je veux pas combiner les deux.
Ok.
Et dans des bars?
Bah écoute, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas pourquoi. Mais
si ça arrive, tu serais pas fermé à l'idée?
Non, je serais pas fermé.
Bon bah écoute, tant mieux.
Très bien.
C'était ta dernière question?
Ouais, merci beaucoup.
Ok. Bon bah merci.
Merci beaucoup.
Merci les gars pour cet épisode. Merci beaucoup Irina.
Je vous en prie.
Pour ton témoignage. C'était top. Merci Mitch. Merci Cynthia et merci à vous chères auditrices et auditeurs d'être toujours fidèles au poste, de toujours continuer à nous écouter et à nous partager. On sait que vous nous partagez beaucoup puisqu'on voit les écoutes qui augmentent sans cesse. Vous pouvez nous suivre sur la page des Gentilhommes sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux, on est un peu partout.
On est là,
écouter les anciens épisodes aussi.
Vous pouvez écouter les anciens épisodes,
il y en a beaucoup.
Il y en a plus de 100.
Ouais, on a abordé combien d'heures d'écoute?
Une cinquantaine
d'heures d'écoute.
Ouais, ça va deux jours et demi.
Ouais. Non-stop.
Bonne chance.
Ouais, vous pouvez écouter les Gentilhommes. Et puis, si ça vous plaît, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Hein, toujours là, la page Tipeee, le lien est accessible depuis lesgentilhommes.fr ou là où vous nous écoutez, trouvez-nous. Quoi. C'est pas très difficile.
On est là.
Voilà, on est là.
On est là. Allez. Sur les réseaux.
À bientôt.
Écrivez-nous, envoyez-nous des messages. Ouais. Si vous avez des témoignages aussi à faire.
C'est pas lui qui répond.
Attends, on remercie.
C'est pas moi qui répond.
Je voudrais dire deux choses. Je voudrais remercier le studio où on enregistre, le studio Restless et Pierre qui nous accueille. Merci beaucoup. Et remercier Irina. Je sais pas si on l'a dit au début de l'épisode, mais t'es venue avec un petit paquet cadeau quand même.
Ah non, mais je pense.
Sympa
que
quoi. Si nous avez dans
fait
le paquet.
Plaisir.
Dans le paquet des clés d'une voiture.
En fait, une Ferrari.
Voiture.
Une Ferrari pour chaque.
Voilà. Franchement, donc les futurs invités, vous savez ce qu'ils vont rester.
Mais vraiment, ce petit.
T'aurais pas dû, hein, Irina. C'est trop sympa.
C'est parce que ça me fait plaisir.
Tu venais de gagner au loto et tu fais. Tu offres ça à mes.
Franchement, je
ne
veux pas garder l'argent pour moi. Il faut que je partage.
Tu as bien fait.
Cool quoi.
C'est trop généreux.
Merci beaucoup. Allez, à bientôt.
Merci. Au revoir.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.